heures avant la fin du monde.
La Banque mondiale, dans son communiqué du 20 septembre 2018, indique « La gestion des déchets solides est un problème universel. Les populations les plus pauvres sont les plus touchées, avec 90% des déchets jetés ou brûlés ouvertement. Il faut trouver une solution à la culture du jetable. » Selon ce même rapport, le monde génère 2 milliards de tonnes de déchets urbains solides par an, dont un tiers ne sont pas gérés de manière écologiquement rationnelle. Avec l'urbanisation rapide, la croissance démographique et le développement économique, cela entraînerait une augmentation de 70% des déchets dans le monde dans les 30 prochaines années, soit 3,4 milliards de tonnes de déchets chaque année. Si on prend l'exemple du plastique, ces déchets qui étouffent les océans, ils constituent 90% des débris marins polluants. En 2016 seulement, le monde a généré 242 millions de tonnes de déchets plastiques, soit 24 milliards de bouteilles plastiques de 500 ml. Cela représente un poids de 3,4 millions de baleines bleues adultes, ou l'équivalent de 1376 Empire State Building. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que le plastique ne représente que 12% des déchets produits dans le monde. Allons-nous finir engloutis sous les déchets? Je me présente, je m'appelle Guillaume, je serai ce soir accompagné de Bruno, Charlotte et Florent. Avec nous ce soir, pour répondre à cette question, Elder de Oliveira, directeur de l'ORDIF, Observatoire Régional des Déchets en Île-de-France. Alors, première question, Elder, les déchets, c'est quoi?
Bonjour. Les déchets, c'est ce que les uns et les autres, donc d'une part les habitants, il y a deux grandes familles, et puis d'autre part les professionnels, abandonnent. Donc il y a un déchet à partir du moment où on a abandonné quelque chose.
D'accord. Est-ce que les déchets, ça représente tous les matériaux? C'est à partir d'une certaine quantité que c'est considéré comme un déchet?
Les déchets, c'est tout. Alors, absolument. Il y a trois grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les déchets inertes, c'est-à-dire la terre, le béton. Quand on détruit un immeuble, on récupère le béton et c'est un déchet inerte. La terre, est-ce que c'est un déchet? C'est comme ça qu'on l'appelle en France, mais en fait, c'est juste souvent de la terre inerte qu'on a excavée, par exemple, en faisant les fondations d'un immeuble. Et on considère que c'est des déchets parce qu'il faut trouver un endroit pour les mettre une fois qu'on l'a enlevé. Même si ça reste naturel, il n'y a pas eu de transformation humaine. Donc ça, c'est les déchets inertes. Après, on a les déchets non dangereux, non inertes. C'est la deuxième grande catégorie. C'est les déchets du quotidien. C'est les épluchures de légumes de votre cuisine, c'est le papier, c'est tous ces déchets quotidiens qui ne sont pas très dangereux. Et enfin, on a la dernière catégorie qui sont les déchets dangereux, qui sont les appareils, les piles, les produits chimiques. Donc ces trois grandes catégories constituent les déchets. Et puis on a une autre catégorie qui est hors catégorie, qui sont les déchets nucléaires. Et d'ailleurs, on les appelle même pas déchets nucléaires, parce qu'une épluchure de légumes, c'est un déchet. Par contre, des fûts de matière radioactive à bassement radioactif, on ne considère pas ça comme un déchet parce que c'est un gros mot d'appeler ça un déchet dans la filière nucléaire.
Et parmi ces différentes catégories que vous avez citées, je vais y arriver, quelle catégorie est la plus nombreuse en volume?
Alors, en quantité, en tonnage, la plus grosse partie, c'est les déchets inertes. Si on prend 10 bennes à ordures, vous allez avoir 5 bennes, c'est de la terre. Vous allez avoir 2 bennes, c'est des déchets de béton. Donc ça reste de l'inerte. Vous allez avoir 2 bennes, c'est des déchets des ménages et les assimilés, c'est-à-dire les petites entreprises, celles du quotidien, celles de la ville. Et puis la dixième benne, ce sont les déchets des professionnels. En tout cas, ce sont les chiffres franciliens, parce qu'il peut y avoir des endroits où la part des déchets professionnels est plus importante.
Est-ce que du coup, ça veut dire que les bétons, par exemple, ne sont pas considérés comme des déchets professionnels?
Si, mais pour des questions D'abord, tous les bétons ne sont pas professionnels, parce que vous pouvez aussi casser le mur chez vous, donc vous êtes, ça sera un déchet ménager dans notre système. Et puis, mais ce sont globalement des déchets professionnels, mais on distingue vraiment à part les déchets du BTP, bâtiments et travaux publics, c'est-à-dire les terres et les bétons, et puis les autres déchets du BTP, des autres déchets professionnels, parce que la quantité est tellement énorme du BTP que ça écrase tout, et donc sinon on n'arriverait pas à les distinguer.
En pourcentage, ça représente combien ? Vous disiez en BEM.
Alors, pourcentage, on va faire les déchets franciliens, c'est 30 millions de tonnes. Vous avez 15 millions de tonnes, donc la moitié qui sont des terres. D'accord. Vous avez 5-6 millions de tonnes qui sont des déchets de béton. Et le reste, c'est des déchets ménagers et des déchets d'activité économique.
Juste, si je ne me trompe pas. Vous n'avez pas parlé de tout ce qui est les excréments et tout ce qui va dans les égouts. Et donc ça, c'est aussi des déchets. C'est considéré comme des déchets ou c'est complètement traité à part
Alors, c'est un autre régime. C'est le régime des eaux usées. Mais vous avez raison. À l'origine, il y a quelques siècles, c'était un peu la même chose. Parce que tous les déchets et les excréments compris étaient jetés dans la rue. C'est pour ça d'ailleurs que vers 1100 et quelques, on a commencé à paver les rues. Pour séparer tout ce que les gens jetaient, les excréments, les os, donc les boues, et le mot éboueur vient de là, et les déchets solides. Mais pendant longtemps, les déchets étaient très peu solides. Donc on pavait les rues pour pouvoir les nettoyer, parce que sinon on enlevait la terre, etc. Et c'est comme ça qu'on a... En fait, l'urbanisme, la voirie, le mot voirie, vient de justement la gestion des déchets, à l'origine.
D'accord, et c'est effectivement, cette séparation-là, chez nous, existe... Mais peut-être qu'il y a des pays où ce n'est pas le cas où,
ça, oui, il y aura les pays les moins, où le dispositif de gestion de l'environnement, enfin des services environnementaux urbains est le moins développé, on peut ne pas avoir cette séparation-là. Mais elle est quand même assez courante. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une logique du cycle de l'eau, les égouts et donc les boues, et puis une logique des déchets solides. D'ailleurs, en anglais, on dit déchets solides. Voilà. Ceci dit, quand on traite les boues, au final, on a des résidus de traitement de boues qui sont des déchets solides et qui rentrent du coup dans la catégorie déchets.
D'accord.
Et justement, on parlait de pays. Est-ce qu'il y a des pays qui produisent plus de déchets que d'autres ?
Oui, globalement, il y a des pays qui produisent plus de déchets en fonction du niveau économique. Et puis des pays qui ont des différentes catégories de déchets, différentes parts des différentes catégories de déchets en fonction du mode de vie. Dans les pays du sud de l'Europe, on a beaucoup plus de déchets organiques que dans les pays du nord, parce qu'on mange plus de fruits, plus de légumes, plus de trucs comme ça. Après, il y a aussi des effets d'optique. Par exemple, il y a 15 jours, il y a eu les chiffres statistiques européens qui sont sortis, et en production de déchets par habitant, on a les Danois qui sont à 800 kg par habitant, alors que les Français sont à 500 et quelques par an et par habitant. Mais c'est pas parce qu'ils produisent plus de déchets, les Danois, c'est juste parce qu'on compte certains déchets professionnels qui ne sont pas comptés en France. Autre exemple, à Paris, là on est ici, on est dans le 3e arrondissement, voilà, on doit avoir autour de 800 kg par habitant, ce qui est beaucoup plus que la moyenne. Quand on va dans le 20e arrondissement, on doit avoir 300-400 kg par habitant. Pourquoi cette différence ? C'est pas parce que les habitants du 3e produisent plus de déchets que ceux du 20e, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de déchets professionnels dans le 3e, encore plus dans le 2 et le 8, où on est à 1,5, 1 tonne 5 par habitant. Voilà. Ça, c'est des effets d'optique, statistiques. Globalement, il n'y a pas tant de différence que ça.
Et ces déchets professionnels, justement, qui sont beaucoup plus nombreux dans certains quartiers, c'est lié au tourisme, c'est lié à parce qu'il n'y a pas d'industrie particulièrement majeure, je me dis, dans le 8e arrondissement.
Alors, la principale activité économique, enfin, il y a deux grandes activités économiques en Ile-de-France. C'est le tertiaire et le tourisme. Donc c'est essentiellement le tertiaire qui produit des déchets particuliers. Et comme il y a peu d'habitants dans certains quartiers, il y a 10 000 habitants dans le premier arrondissement, par exemple. Il y en a 250 000 dans le 15e. Donc, ces effets de population et de surface font qu'on a des statistiques très différentes selon les quartiers.
Oui, d'accord. On fausse la moyenne avec le nombre d'habitants.
Ah, il ne fausse pas la moyenne, parce que la moyenne, c'est la même, mais ça fausse la comparaison entre certains territoires.
D'accord.
Du coup, vu qu'on parle de cette moyenne, donc selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les déchets ménagers en France, en 2018, étaient à peu près de 513 kg par habitant par an, soit deux fois plus qu'il y a 40 ans. Donc même si on voit que ces statistiques ont légèrement diminué, puisque en 2011 on était à 590 kg par habitant, 2013 573, 2015 568 et maintenant 513, ça va vers la baisse.
Alors d'abord, sur les chiffres que vous évoquez, il y a vraiment un cycle, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 2000, les déchets par habitant ménagers et assimilés ont doublé. Depuis 2000, ils ont baissé jusqu'en 2015, et dans la plupart des villes. Et là, ils ont l'air de recommencer à augmenter. Donc, je précise l'évolution. Donc on était plutôt optimiste depuis 2000, et puis là, on commence à se poser des questions.
Juste si je peux vous entendre sur cette évolution, justement, est-ce qu'il y a une explication ?
Il y a plein d'explications. Il y a la société de consommation qui a explosé à partir de 1945. Et depuis 2000, il y a peut-être une prise de conscience, il y a eu plusieurs crises économiques, il y a le développement de filières particulières sur certains déchets qui font que ça grignote un peu le dispositif. Donc il y a un faisceau d'explications, un faisceau d'indices.
D'accord.
Merci pour cette réponse. On va faire une petite pause musicale et on revient juste après.
Tombent les petits papiers par terre, les capsules et les canettes. Tombent les bouteilles de verre, les paquets de cigarettes. Je me balade en slalom, je marche sur un journal. Je m'englue sur un chewing-gum et vous trouvez ça normal. Tombent les bouteilles en plastique et me mettent plein la vue. Il n'y a rien d'esthétique quand ça pue et ça pollue. Je me balade de travers, c'est un drôle de paysage. Sous la crasse, les prés verts et sous les déchets, la plage. Commission vole sur mon avenue, tombe la consommation. Je me balade en zigzag, un bonbon sous la basket. Si pour vous c'est une blague, alors changez de planète. Tombe jusque devant ma porte les kilos d'âmes égoïstes. Tout ce que le vent m'apporte, je n'ai pas fini ma liste. Je me balade comme je peux entre les vieux emballages et quelques pas hasardeux, mais sous les déchets, la plage. Sous les déchets, la plage. Sous les déchets, la plage. Abîmé, tous ces usages ancestraux. Je me balade en fuyant les cortèges de mégots. Je m'en sors en vacillant, vous trouvez ça rigolo. Tombent les bouteilles sur ma route. C'est pas que la faute aux autres, y en a tellement qui s'en foutent. C'est quand même un peu la nôtre. J'ai arrêté mes balades, ma planète fait naufrage. Mon monde est tout malade et sous les déchets, la plage. 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 Sous les déchets, la plage.
Bonsoir ou rebonsoir, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, une heure avant la fin du monde, sur une émission consacrée aux déchets. Nous continuons tout de suite. Aujourd'hui, nous discutons du coup des déchets et du recyclage avec en invité Elder de Oliveira, le directeur de l'Observatoire régional des déchets d'Île-de-France. Et on va aborder la deuxième partie de l'émission qui va parler du traitement des déchets et du recyclage. Et on va tout de suite commencer par une petite chronique.
Chronique écrite par Claire qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Le recyclage, c'est un peu comme la conduite. Si, on croit tout savoir ce qu'il faut faire, mais en fait, on fait tous n'importe quoi. Il y a pourtant des panneaux, mais que personne ne lit ou ne comprend. Et rien n'est fait pour faciliter notre compréhension. Si vous êtes un peu vadrouilleur et que vous conduisez dans un autre pays, vous n'avez pas les mêmes panneaux, pas les mêmes règles. Certains d'entre nous sont même des chauffards du recyclage. Ils ne font pas attention, ils jettent au hasard en passant rapidement devant, sans regarder les panneaux. Et puis, il y a ceux qui roulent en voiture sans permis. Le recyclage, c'est pas du tout leur truc. Ils ne font pas semblant d'essayer. Ils jettent tout ensemble. Verre, papier, épluchure, carton, hop, tout dans la même poubelle. Et c'est pas tellement un problème de génération. On a tous des amis, des personnes de sa famille, des collègues qui conduisent n'importe comment, qu'importe leur âge. Certains essayent de ne plus avoir à conduire. Ne plus avoir besoin de conduire est encore le meilleur moyen de ne pas faire d'erreur. Alors chacun et chacune font de petits efforts. Utiliser sa chaussette solitaire pour remplacer le coton quand on retire son vernis ou pour nettoyer sa voiture. Faire soi-même sa lessive, acheter en vrac, redécouvrir la joie d'un marché local. À chacun d'être inventif. Moi, j'apprends à conduire correctement. Ce n'est pas toujours évident. C'est beaucoup une histoire de conviction personnelle et de persistance. Mais soyons honnêtes, le problème, c'est surtout que les règles de conduite ne sont pas claires. Elles sont écrites par des personnes qui ne cherchent pas vraiment le bien-être général. Finalement, le mieux qu'on a tous à faire, c'est de s'aider à comprendre les panneaux et d'essayer d'utiliser sa voiture le moins souvent possible. Et si on repassait tous notre permis écolo ? Qu'est-ce que vous en dites ?
Alors d'abord, pour réagir à cette chronique, on n'a pas besoin d'une voiture, on peut très bien circuler en vélo, surtout en ville. Et je ne vois pas pourquoi on passerait le permis. Permis, c'est dépassé. Non, il faut le code de la ville. C'est un code un peu différent, où il y a plein de règles d'ailleurs que les automobilistes ne connaissent pas. Quand on leur demande certains panneaux qui donnent la priorité au vélo, ils ne les connaissent pas. Donc voilà, ça c'était une parenthèse. Là aussi, comme sur les déchets, comme sur les autres questions d'environnement, souvent c'est important de faire un petit pas de côté pour voir les choses un peu différemment. Sur les consignes de tri, en fait, le paradoxe, c'est que tout le monde a l'impression que c'est compliqué et différent, alors que c'est les mêmes partout. Simplement, dans un coin, ça va être une couleur, dans un autre, ça va être une autre couleur. Mais derrière, c'est le même dispositif. Il y a quelques cas assez rares où vraiment le dispositif est différent. Par exemple, à Dunkerque, où on mélange les emballages en verre avec les autres emballages. Mais c'est très, très rare. En pratique, c'est assez simple. C'est assez simple. Alors, il y a deux périodes. Il y a la période jusqu'à aujourd'hui, la période à partir d'aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, globalement, ce qu'on recyclait, ce qu'on triait, c'était les papiers, les cartons, les bouteilles en plastique, les canettes, qui sont souvent en acier, parfois en aluminium, vous n'avez pas besoin de le savoir, il suffit de savoir que c'est une canette, et puis les briques. Après, c'est dans certains endroits, on se dit le papier, le carton, le papier, il faut le séparer du reste, mais c'est toujours les mêmes consignes. Et tout le reste, on ne triait pas. Et ce qui va changer à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire certains territoires ont commencé à le faire, d'autres vont le faire d'ici quelques années. Paris, ils viennent de commencer depuis le 1er janvier de cette année. C'est que tous les emballages, c'est-à-dire tous les autres plastiques essentiellement, vont être aussi triables. Donc finalement, c'est assez simple. Et il n'y a pas de distinction énorme selon les territoires. Simplement, on a laissé pendant 20 ans les collectivités choisir leur communication autour de ça. Et du coup, on a une sorte d'impression de bordel qui ne correspond pas à la réalité technique. Et c'est une sorte de paradoxe.
Et du coup, le but, en fait, va être de simplifier petit à petit ces apports-là, cette captation, en fait, globalisée.
Alors, juridiquement, ça a été simplifié, puisque tous les emballages, maintenant, sont triables. Et ça, c'est vraiment une bonne chose, parce que la logique qui consistait à dire seulement certains plastiques doivent être triés et pas les autres, c'était totalement absurde. Même si, techniquement, ça avait du sens. Après, je ne crois pas qu'on puisse demander aux gens d'être des spécialistes du recyclage. C'est-à-dire que pendant longtemps, les bouteilles, par exemple, en plastique, avaient la même matière pour les couvercles, les bouchons, et la cuve de la bouteille. Puis après, au début des années 2000, ça a changé. Ils ont changé de matière pour le bouchon, pour des raisons techniques, que la cuve. Et du coup, les centres de recyclage de déchets plastiques, ils ne savaient plus faire. Du coup, on a développé des gens qui faisaient de la collecte de bouchons séparément et de la collecte de bouteilles de l'autre. Et puis après, la technique a évolué. Et maintenant, dans toutes les usines de recyclage de plastique, ils savent séparer ces deux plastiques-là. Parce qu'il y en a un qui flotte et l'autre qui ne flotte pas. Donc, ils les mettent dans l'eau. Une fois que c'est gras broyé, ils arrivent très bien à les séparer. Du coup, on n'a plus besoin de séparer les bouchons et les bouteilles. Mais tout ça, ça n'a aucun sens. C'est des questions techniques, des questions de techniciens, d'industriels. Ce n'est pas des questions d'habitants. Ça ne devrait pas être des questions d'habitants. Et donc, la simplification à tous les emballages, c'est d'aller jusqu'au bout de cette logique-là. C'est un emballage. C'est un truc qui a servi à emballer ce que vous avez acheté. Ben, il faut le trier. Et après, c'est aux industriels de faire en sorte que ce truc-là est recyclable ou pas. Voilà. D'accord. Et ça, c'est une belle avancée. Pardon.
Non, pas de souci. Mais justement, ça pose une question, c'est que après tout ce qu'on trie, est-ce que c'est vraiment recyclé ?
Alors du coup, à un instant T, non. Mais en dynamique, oui. Parce que ce qui n'est pas recyclé, parce que ça a été mis sur le marché sans prendre en compte la question du recyclage, ce qui est un vrai scandale, entre parenthèses, eh bien, le temps que l'industrie s'organise pour pouvoir recycler tel ou tel truc, ou pour arrêter de le produire, eh bien, on ne peut pas garantir que chaque truc est recyclable à un instant T. Et puis aussi, il y a des questions économiques, c'est-à-dire que il y a plein de choses qui sont techniquement recyclables, mais qui ne sont pas assez concentrées pour qu'économiquement, ça soit intéressant de recycler. C'est le cas du polystyrène. Polystyrène, c'est utilisé dans les yaourts, dans les pots de yaourt, et puis dans les trucs pour conditionner les gros objets. Ben, ça, techniquement, ça pose aucun problème. Simplement, transporter du polystyrène, c'est transporter de l'air. Et du coup, ça coûte une fortune. Du coup, aujourd'hui, dans l'état actuel de la technique, on ne le recycle pas. Mais il y a plein de gens qui sont en train d'essayer d'inventer des outils qu'on peut mettre dans les centres de tri ou à l'entrée des usines pour concentrer le polystyrène et le rendre économiquement intéressant. Voilà. Mais tout ça, c'est du recyclage. Et le recyclage, en France, on n'est pas super bon. En Ile-de-France, on est une catastrophe. Notamment les cartons, les papiers, on arrive à trier un quart du plastique, un tiers du carton et du papier. Le papier et le carton, c'est pas un problème... c'est pas compliqué. Hein. C'est pas un problème de code de la route. Tout le monde sait que le papier et le carton, c'est recyclable. Mais pourtant, on n'en collecte qu'un tiers. Le verre, ça fait 30 ans, 40 ans. J'étais pas né quand il commençait à recycler le verre. Et pourtant, on n'en collecte que 60%. Donc le problème, il n'est pas dans le code de la route. Le problème, il est dans la volonté des uns et des autres, dans la mobilisation de tous les acteurs. Mais le code de la route, c'est un peu le prétexte pour dire c'est parce que c'est compliqué qu'on ne le fait pas. En fait, non.
Comment est-ce que concrètement on traite ces déchets en France ?
Alors qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets ? C'est ça votre question, votre
traitement. Exactement.
Alors d'abord, avant de dire ce qu'on en fait, il faut dire que le mieux, c'est de ne pas produire de déchets. Et on a une directive cadre sur les déchets qui date de novembre 2008, qui dit qu'il y a une hiérarchie pour les déchets, et il faut appliquer un principe de subsidiarité. Et le premier niveau de cette hiérarchie des déchets, c'est ce qu'on appelle la prévention. Donc éviter le déchet. Éviter le déchet, ça veut dire éviter le gaspillage. Éviter d'acheter des trucs... que vous avez consommé juste en partiellement. J'ai acheté une grande boîte de pâtes et vous en mangez que quelques-unes et vous jetez les autres. Ça, c'est du gaspillage. Mais en France, on a un niveau supplémentaire sur cette prévention qu'on appelle le compostage domestique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez épluché votre banane ou vos carottes, vous pouvez composter vous-même. Et donc, de ce point de vue-là, c'est de la prévention pour la collectivité, parce qu'elle n'aura pas à gérer ces déchets-là. Et tout le monde peut faire du compostage. Moi, j'en fais 15 ans que j'en fais dans le 19e. Et si on peut le faire dans Paris, qui est une des villes les plus denses du monde, on peut le faire partout. Donc ça, c'est de la prévention. Et ensuite, on a quatre niveaux de traitement des déchets qui doivent s'appliquer dans une démarche de subsidiarité. C'est-à-dire que d'abord, on essaie de recycler, c'est-à-dire il y a deux formes de recyclage. Il y a à faire de la matière recyclée à partir de vieilles matières. Donc on fait du nouveau papier à partir de vieux papier, on fait du nouveau plastique à partir de vieux plastique, on fait des nouvelles canettes en fer à partir de vieilles canettes. Et l'autre matière, l'autre branche du recyclage, c'est de faire le compostage, mais au sens industriel. C'est-à-dire, on collecte les biodéchets, les déchets de cuisine, et on en fait du compost. Et ça, le potentiel est énorme, parce que ce dispositif-là est quasi inexistant en France. Il commence à se développer. En Île-de-France, on a 1 million de tonnes de déchets organiques qu'on pourrait composter. 1 million de tonnes, c'est la totalité des déchets de la ville de Paris pendant un an. Voilà. Donc ça, c'est le premier niveau de traitement, ou le deuxième niveau de la hiérarchie. Ensuite, on a un troisième niveau qui est autre valorisation. Et ça, on est spécialiste en France, enfin, en particulier en Île-de-France. Les autres valorisations, la principale, c'est de brûler les déchets. Les brûler et d'en faire de l'énergie. Et en France, depuis plus d'un siècle, depuis les années 1905 et 1914, on a quatre sites aux quatre coins de Paris qui progressivement se sont équipés d'incinérateurs. Je vous raconterai l'histoire après si vous voulez. Et ces incinérateurs, ils produisent de la chaleur pour alimenter des hôpitaux, des bâtiments. Et ils produisent de l'électricité. Donc c'est les autres valorisations. Et enfin, le dernier niveau, j'en ai oublié un d'ailleurs, c'est l'élimination. C'est-à-dire, quand on ne sait plus quoi faire avec ces déchets, qu'on ne peut plus les valoriser, eh ben, on peut les enfouir. Et en théorie, c'est vraiment des déchets ultimes, c'est-à-dire des déchets qu'on ne peut pas recycler, qu'on ne peut pas brûler, dont on ne peut pas récupérer l'énergie, etc. Et celui que j'ai oublié entre la prévention et le recyclage, c'est le réemploi. C'est-à-dire faire en sorte que les déchets soient réutilisés, réparés, qu'ils puissent vivre une seconde vie en tant que produit, et pas seulement en tant que matière. La matière, c'est le recyclage.
Si c'est entre la prévention et le recyclage, donc en fait, ça veut dire que c'est la priorité. Le réemploi, c'est le...
Voilà, tout est priorité. C'est la subsidiarité. La priorité, c'est de prévenir. La deuxième priorité, c'est de réemployer. Ensuite, de recycler. Ensuite, valoriser. Et enfin, éliminer. Par exemple, en matière de piles, la priorité, c'est de ne pas utiliser de piles. C'est d'avoir un système qui se branche sur le secteur. Un truc fou, quoi. Un truc qui se branche. Ou alors une radio qui à manivelle, ou une lampe à manivelle, comme on a dans les magasins de sport. Voilà. Deuxième niveau, c'est le réemploi. C'est-à-dire finalement une pile qui se recharge. Troisième niveau, c'est le recyclage, c'est-à-dire une pile dont on peut récupérer les éléments et qu'on va recycler. Et c'est seulement si ces trois éléments-là n'ont pas pu être faits, parce que pour la pile, ça suffit, normalement, si on arrive à tout capter, on n'a pas besoin du reste.
Sur les piles, justement, est-ce qu'on sait combien arrive dans ces trois premières étapes et combien dépassent et atterrissent en décharge ou en incinérateur?
Alors, les piles, c'est un énorme sujet parce que c'est un truc que tout le monde connaît. C'est un produit dangereux. Et en France, on arrive à en capter. Il y a un dispositif spécifique pour les capter, pour les recycler. Ce qu'on appelle une REP, un système de responsabilité élargie du producteur. C'est-à-dire ceux qui mettent sur le marché une pile, ils financent des organismes qui sont censés les récupérer, sont chargés, et ils le font, de les récupérer et les recycler. Je parle trop fort pour vous. Et donc on a un dispositif qui devrait être parfait. Sauf que quand on regarde, on capte 30% des piles. Donc les 30 autres pourcents, on ne sait pas où elles sont. Alors, ceux qui sont optimistes disent « Ouais, mais les gens le gardent chez eux. » Ils font du stockage. Ce qui n'est pas faux non plus. Sauf qu'au bout d'un moment, ils finissent par je sais pas, ils déménagent, je ne sais quoi, donc ils s'en débarrassent. Les pessimistes disent, de toute façon, ils sont dans la nature. L'autre jour, je suis allé au Trocadéro, et la Tour Eiffel, c'était très beau et tout, et par terre, dans un coin, il y avait des piles. Il y avait quelqu'un qui avait un appareil photo à piles, sans doute, qui avait échangé ses piles et qui avait jeté les piles par terre. Donc, au pire, elles sont dans la mer, elles sont dans les océans. Entre les deux, il y a les incinérateurs, ce qui n'est pas une très bonne idée de brûler des déchets dangereux dans un incinérateur, mais au moins, il y a des filtres. Voilà. Donc, tout ça, on ne peut pas dire que ce soit complètement optimum, parce qu'on ne capte que environ 30% des piles. Et dans les pays les plus performants en Europe, parce que les pays qui sont plus performants que nous, plus citoyens ou civiques ou je ne sais quoi, comme la Belgique ou les pays du Nord, eh bien, ils arrivent à 60% des piles. Donc, c'est pareil, il y a 40% des piles qui sont des trucs dangereux, je le répète, qui se retrouvent dans la nature. Donc là, on a un vrai sujet, c'est comment on arrive à capter ces trucs qui ne devraient pas être dans un incinérateur, pas dans la nature, pas dans la mer, pas au Trocadéro, de façon efficace. Et ça, alors, il y a quelques années, la Commission européenne disait mais il faut créer un système de consigne. Donc, la consigne était un peu taboue, elle l'est un petit peu moins aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous ramenez votre pile, ben, vous récupérez un euro ou un bon d'achat pour la prochaine pile ou je ne sais quoi, peu importe. Mais au moins, les systèmes, là où il y a des systèmes de consigne, il y en a pas mal sur les emballages en Allemagne ou au Danemark, ouais, ou même en Belgique, eh ben, on arrive à capter 90% du gisement, ce qui est déjà mieux que 30 ou 60.
C'est ça. Donc c'est 30% capté, 70% perdu. On ne sait pas où.
C'est ça.
Ok. On a parlé
peut-être dans votre cas.
Bah, peut-être, sûrement. On a parlé du coup de l'incinération, de la valorisation. Il y a aussi un mot qui circule beaucoup, c'est la méthanisation. Quels sont les intérêts de faire de la méthanisation et, enfin, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est ?
Alors, la méthanisation, c'est assez simple. C'est pour l'Île-de-France, 1 million de tonnes de déchets, de biodéchets, de déchets organiques. Qu'aujourd'hui sont incinérés. Et c'est des déchets organiques, c'est de l'eau, hein, c'est-à-dire 90% d'eau, c'est-à-dire qu'on met dans des incinérateurs qui sont là pour faire de l'énergie, de l'eau. Enfin, c'est un peu absurde, mais c'est comme ça que ça fonctionne depuis quelques années maintenant. Mais c'est ça qui est en train d'être mis en cause aujourd'hui. On se dit, ces déchets organiques, ils ont un pouvoir méthanogène, c'est-à-dire qu'ils peuvent produire, quand ils fermentent, ils peuvent produire du méthane. Alors, s'ils sont dans un incinérateur, ils ne produisent pas du méthane, ils produisent du CO2, ce qui n'est pas beaucoup mieux, mais qui est moins grave, parce que méthane, c'est 25 fois plus impactant pour l'effet de serre que le CO2. En revanche, si vous le mettez dans une décharge, là, ça fermente dans la décharge, et du coup, ça fait du vrai méthane qui part dans l'atmosphère, et là, ça a un impact assez gros. Un des gros impacts climatiques de la gestion des déchets, c'est les déchets organiques qu'on met dans les décharges. Et c'est pour la raison pour laquelle on a une obligation de captage de ce méthane, sauf qu'on n'en capte que grosso modo la moitié, parce que le temps de couvrir, mettre en place le dispositif, au fur et à mesure du remplissage, on arrive à capter la moitié. Et souvent, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'on le brûle dans les petites installations, dans les petites décharges, on le brûle, ce qui est mieux parce que ça transforme en CO2, qui est moins impactant pour le CO2. Et dans les grosses installations, on arrive à en faire, à retirer de l'énergie avec ça. Il y a deux grosses installations près de Roissy, qu'on voit très bien sur Google Earth, si vous regardez, à Clessouilly, et qui sont énormes, qui elles aussi ont une capacité d'1 million de tonnes de déchets, donc l'équivalent de toute la production de déchets de la ville de Paris, et qui captent ce méthane et qui en font de l'électricité. Et peut-être bientôt, qui vont peut-être brancher en le purifiant leur gaz dans le réseau de gaz naturel. Bon. Le méthane, l'idée, c'est de prendre les déchets, les biodéchets, et d'accélérer ça dans un système confiné, anaérobie, sans oxygène, et de produire d'un côté le méthane, mais de le capter, donc, du coup, il part pas dans l'atmosphère. Donc ça fait du gaz naturel, ce qu'il y a dans le gaz de ville, c'est du méthane en fait, et du coup de le valoriser ensuite en termes de production énergétique. Donc c'est assez simple. Et puis de l'autre côté, une fois qu'on a enlevé le méthane, il reste une sorte de galette qui est une sorte de compost un peu moins fertilisant que le compost direct, mais qui est intéressant du point de vue agronomique. Et donc il y a deux grandes filières quand on a capté les biodéchets du point de vue industriel, il y a une filière faire du compostage pour les grandes, pour les paysans, ou faire du méthane pour les paysans et des productions énergétiques. La difficulté, alors on est un peu au début. En Île-de-France, il n'y a qu'une seule grosse usine qui utilise les biodéchets de la ville. Il y a pas mal de méthaniseurs agricoles qui utilisent les déchets agricoles, mais en termes de déchets de ville, il n'y en a qu'une très grosse qui fait 40 000 tonnes.
Déchets de ville, c'est les déchets ménagers.
Déchets ménagers, déchets professionnels de la ville, parce qu'ils n'utilisent pas beaucoup de déchets ménagers, c'est plutôt des déchets professionnels. Des déchets, par exemple, des invendus de supermarchés, des trucs comme ça.
Okay.
Et ils font du méthane avec, et ce méthane, il sert à produire de l'énergie. Donc c'est assez intéressant. Dès lors qu'on a enlevé les biodéchets du dispositif incinération, enfouissement, et c'est intéressant pour les déchets qu'on n'arrive pas à gérer du point de vue proximité, c'est-à-dire chez vous ou dans votre quartier. Voilà. Après, en ville, ça a aussi des impacts, parce qu'une usine, c'est une grosse usine qui peut avoir des impacts en termes de pour les riverains, en termes d'odeur, donc il faut que ce soit bien géré.
Justement, du coup, ça sera le but de la prochaine partie.
Je vous propose maintenant de faire une petite pause musicale. On se rejoint dans quelques instants.
Pour les vacances, mon amour, je te propose du changement. Oublie tes plages tropicales et ton putain de sable blanc. Entre Asie et Amérique, l'un est des loin du Tibet. Un continent fantastique, enfant sacré du progrès. Je te promets des ordures comme tu n'en as jamais vu. Je t'emballerai sans embâche sur un doulis d'emballage. On nagera dans un bonheur plastifié et sensuel. Moi je serai le plus beau, toi tu seras la poubelle. Plastique, plastique, au cœur du Pacifique. Polymère, polymère, au cœur de l'hiver. Plastique, plastique, au cœur du Pacifique. Polymère, polymère, pas polymère. La journée dans des hamacs en latex de capote. On s'enfilera du pétrole dans des gobelets en plastoc. Inutile de t'inquiéter pour les espèces menacées. Tu le sais bien mon amour, elles finissent par s'adapter. Une tortue qui mange des sacs, c'est trop cool pour l'océan. Ouais, comme ça tous ses besoins sont emballés en sortant. Un jour il y a plus de plastique que de poissons. Bah on mangerait du plastique, on tuera plus de poissons. Plastique, plastique, au cœur du Pacifique. Polymère, polymère, au cœur de l'hiver. Plastique, plastique, au cœur du Pacifique. Polymère, polymère, au polymère.
Rebonjour, bienvenue à tous sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours sur Une heure avant la fin du monde, au sujet des déchets et de leur recyclage. Et nous entrons dans la troisième partie. On a abordé un peu tout à l'heure le principe des déchets, des collectes, des déchetteries qui existent, de l'enfouissement, de l'incinération. Il y a une actualité qui est sortie aujourd'hui, d'ailleurs, dans la presse, qui parle d'une décharge à ciel ouvert à Bagnolet, de plusieurs hectares, qui mélange les encombrants et les déchets ménagers. Est-ce que... Enfin, la part de décharge comme ça, sauvage, c'est d'ailleurs un délit, qui du coup est puni par la loi. Concrètement, est-ce que on sait pourquoi est-ce que les gens font ça? Est-ce que c'est un manque de dispositif ou est-ce que c'est juste un manque de civisme?
Sur votre question, c'est pourquoi les gens font ça? En fait, ils font ça parce que c'est plus facile, parce que ça coûte moins cher, parce que culturellement, ils ne veulent pas forcément faire un effort. Voilà. C'est un peu les trois grandes raisons. C'est plus facile parce que y a beaucoup d'exutoires, ce qu'on appelle les exutoires, des lieux où on peut mettre ses déchets pour les habitants et les professionnels. Mais déjà, pour les habitants, on en a beaucoup moins qu'ailleurs en France. Bon, ceci dit, il y a aussi des dépôts sauvages ailleurs en France. En France, on a une déchetterie publique pour 14 000 habitants. Sur la métropole du Grand Paris, on a une déchetterie publique pour 140 000 habitants, 149 000 habitants. Donc on en a 10 fois moins. Donc il y a sans doute un déficit d'outils pour pouvoir jeter ces déchets pour les habitants. Pour les professionnels, c'est pas forcément en nombre, mais même si on a le même sujet, c'est-à-dire qu'une petite distance, il y a souvent des exutoires suffisants à moyenne distance, mais une petite distance dans l'agglomération, quand on a un camion, quand on a dans la circulation, c'est souvent beaucoup plus lourd à gérer qu'ailleurs. Voilà. Et donc on a malgré tout, peut-être un déficit de lieu. En tout cas, de lieu de cette première étape, qui est juste de déposer son déchet. Ensuite, l'autre élément, c'est qu'on peut avoir des lieux, mais avec des tas de règles, qui dépendent des collectivités ou de l'exploitant du lieu. Ça peut être une quantité maximum, c'est un prix, c'est des horaires. Et donc, quand vous sortez d'un chantier, que vous avez travaillé jusqu'à pas d'heure pour refaire une maison et que vous avez des tas de gravats et que vous mettez dans votre camion et que vous rentrez chez vous et que vous passez par la déchetterie, que là vous voyez que c'est fermé, bon, vous allez la déposer un peu plus loin. C'est pas une bonne chose, mais ça arrive. Voilà. Donc ça, c'est la question de l'ergonomie. Puis ensuite, même quand c'est ouvert et même quand on peut déposer ses déchets, souvent il y a un plafond et puis pour les professionnels, il faut payer. Pas toujours, mais souvent. En tout cas, et quand il ne faut pas payer pour une petite quantité, il faut payer pour une certaine quantité. Voilà. Et enfin, quand on fait n'importe quoi, normalement on est sanctionné, et c'est quand même assez compliqué de sanctionner des gens qui déposent dans la nature sans qu'on les voit. Donc on a quatre facteurs comme ça, un facteur ergonomie, un facteur
budgétaire,
un facteur réglementaire, et puis un facteur communication, est-ce qu'on sait comment ça fonctionne, est-ce qu'on sait comment gérer ces déchets. Et tant qu'on n'a pas réglé ces quatre facteurs concomitamment, on aura toujours les déchets sauvages. Avec un élément d'actualité quand même, ça dépend à quel moment vous diffusez l'émission, mais en ce moment il y a une loi qui va passer à l'Assemblée concernant les déchets, ou l'économie circulaire, qui est une autre façon de parler des déchets souvent, qui dit que ceux qui vendent, enfin pour l'instant, à ce stade, il y a les lobbies qui vont intervenir, etc. mais à ce stade, l'idée, c'est que ceux qui vendent des produits du BTP, ils vont devoir mettre en place un dispositif gratuit pour récupérer les déchets du BTP. Et s'ils le mettent en place, ça sera une grosse partie de la solution.
D'accord. Parce que justement, vous parlez du prix, ça coûte combien la gestion des déchets, en gros?
Alors, les déchets ménagers par habitant en Île-de-France, ça coûte par an environ 95 euros.
Pour le traitement des déchets
pour
par habitant.
Tout, la collecte, le traitement, etc.
Donc, ça veut dire aussi les déchetteries, les employés, tout ce qu'il y a dedans.
Tout. Donc, c'est pas énorme.
95 euros
par an et par habitant.
Ah oui.
Et du coup, question.
C'est-à-dire que vous, les uns les autres, indirectement, vous payez 95 euros à travers vos impôts, à travers vos dispositifs.
D'accord. J'ai une question bête, mais c'est sur les. Justement, on parle des déchets du bâtiment. Et, voilà, dans ma rue, pour prendre un exemple très concret, dans ma rue, au bout, il y a un espèce de terrain vague et il y a systématiquement des plaques de fibro-ciment. Et il semble en fait aucune déchetterie du coin n'accepte justement le fibro-ciment parce que c'est de l'amiante et qu'il faut un traitement très particulier. Et du coup, ils finissent dans un terrain vague. Est-ce que les déchetteries sont du coup. quelle est la solution, quoi, finalement? Est-ce que les déchetteries, du coup, doivent pouvoir prendre en charge tout type de déchets? Qu'est-ce que...
Alors, l'amiante, c'est vraiment un cas particulier. En théorie, toutes les déchetteries devraient pouvoir être équipées pour récupérer l'amiante. Simplement, c'est tellement contraignant, tellement cher, que personne vraiment le fait. Il y a moins d'une dizaine de lieux en Ile-de-France pour le récupérer. Et on arrive à un truc complètement paradoxal où, comme personne ne le récupère, il est abandonné, alors que c'est le truc le plus dangereux. Et parfois, certains le récupèrent, mais avec des conditions absurdes, du genre, il faut que ce soit des petites quantités. Et donc, on arrive à des situations où les gens cassent des trucs en fibre ciment, ce qui est très dangereux, pour pouvoir le faire rentrer dans le bac. Voilà. C'est un des sujets qui est en tension dans le milieu des déchets, parce que notamment la caisse d'assurance maladie est très, très préoccupée par cette question-là, parce qu'il y a aussi beaucoup de déchets à de l'amiante clandestin dans les déchetteries et dans les exutoires privés, dans le sens clandestin, dans le sens où ils ne sont pas déclarés, mais ils sont quand même amiantés et qu'on n'a pas de dispositif de protection qui correspond. Donc ça, c'est un sujet compliqué. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est compliqué.
Juste petite question, mais sur les impacts environnementaux que vous citiez, mais peut-être pas assez, c'est la question aussi des transferts de déchets entre différents pays et le fait que qu'il y ait un marché du déchet. Cette question-là de qu'est-ce qu'on fait de nos déchets et de comment ils transitent ou ne transitent pas et qu'est-ce qu'on en fait, et c'est aussi une question, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
Alors, moi, ce que je vous ai dit, c'est le dispositif en France pratique pour tous les déchets, en principe. Après, il y a des déchets, ils sont dans un marché, et il y a des acteurs qui soit veulent valoriser la matière, notamment, ou les possibilités de créer de la valeur avec des déchets ailleurs, dans les endroits où ce n'est pas forcément réglementé. Et d'ailleurs, la valeur peut être le résultat du fait que ce n'est pas réglementé. C'est quand ça devient compliqué. Genre, moins de droits sociaux, moins de normes environnementales ailleurs. Et donc, c'est là qu'on peut créer du profit en ne respectant pas les règles sur place. Normalement, en France, on a des lois et en Europe qui disent qu'on a un principe de proximité, qu'il faut gérer ces déchets localement. Donc on ne devrait pas les exporter. Mais après, certains pays disent « mais nous, on a besoin de matières premières, on a besoin de produits de seconde main ». Et ces besoins-là servent un petit peu de paravent pour faire des trafics qui vont au-delà de ces besoins-là. Ou qui sont en partie pour régler ces besoins-là, mais du coup, ils se retrouvent avec d'autres déchets. Par exemple, des appareils qui sont réutilisables, il va y en avoir 10 dans ce qu'on exporte, mais il va y en avoir 50 qui ne le sont pas. Et du coup, c'est une façon d'exporter la gestion du déchet électronique ou qui devrait être réglé sur place. Ouais. Voilà. Donc c'est un mouvement qui est assez complexe et qui n'est pas assez réglementé, clairement. Et qui se joint aussi à un autre élément d'actualité qui est assez fort, c'est que une grosse partie de l'industrie qui utilisait les matières premières secondaires, c'est-à-dire les matières premières issues du recyclage, le plastique, les papiers, c'était les pays industriels. La France, c'est pas un pays industriel. Le pays industriel, c'est la Chine, par exemple. Et la Chine, qui est maintenant un gros pays de consommation, il produit aussi beaucoup de déchets. Et il voyait arriver beaucoup de matières recyclables en quantité assez énorme, pas forcément de très bonne qualité, des pays d'Europe, et en même temps monter la production locale. Donc là, depuis 2 ans, il a bloqué les importations, notamment le plastique, en disant... d'abord, il y a eu une première étape, c'est qu'il a augmenté les normes de qualité. Et ensuite, il a complètement bloqué en disant « Moi, je vais déjà m'occuper de mes plastiques à moi. Mon industrie, elle peut très bien absorber mes plastiques à moi, mais elle n'a plus besoin des plastiques de l'extérieur. » Et du coup, aujourd'hui, pour l'Europe et pour pas mal de pays, notamment les États-Unis, on a un manque de débouchés pour ces plastiques. Voilà. Donc, on est dans une période un peu transitoire. Il y a des tas d'industriels qui disent « C'est l'occasion de créer vraiment une industrie du recyclage en Occident, bon, qui existe un peu déjà à Limay, j'en parlais tout à l'heure, on peut fabriquer des bouteilles par exemple. Il y a des papetiers, mais qui sont en crise. Donc il y a un jeu comme ça de des industriels des différentes matières entre les imports, les exports, avec des filières qui profitent de ça pour faire du profit sur le dos des normes environnementales et des gens.
Merci pour cette réponse. On va faire une petite pause musicale et on revient juste après.
Devant mon poste de télé, je les vois me raconter des salades. Disent que la Terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous à l'enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Amen. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Et tant qu'à faire, faisons bien. Faisons pas les choses à moitié. Et du phosphore dans nos rivières, de la dioxine dans nos déserts, des piscines en plein désert, 50 degrés en plein hiver. Et tant pis pour l'ours polaire, un ours, à quoi ça sert?
Niquons la planète. Raison d'être.
Rebonjour, vous êtes toujours sur Radio Campus avec une heure avant la fin du monde et tout de suite la petite chronique sur les réductions de déchets.
Nous sommes aujourd'hui avec Micheline qui a changé son mode de vie pour tendre vers le zéro déchet. Si vous aussi ça vous intéresse, voilà ses petits conseils. Bonsoir Micheline. Comment vous y prenez-vous pour réduire votre production de déchets?
Alors, la philosophie du zéro déchet, on en a déjà parlé un petit peu avant de manière différente, peut être résumée par les 5 R. Refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. On ne sait pas un R, mais c'est rot en anglais. Donc d'abord, je refuse, je dis non aux déchets quotidiens, verre en plastique, prospectus, goodies, tickets de caisse. Essayez de faire une liste de vos déchets quotidiens, vous verrez qu'il y en a beaucoup et que beaucoup sont évitables assez facilement. Ensuite, réduire, j'évite le gaspillage, les emballages, j'achète moins, je prends soin de mes affaires. Réutiliser, je fais des chiffons ou des sacs avec des vieux vêtements, j'utilise des vieux bocaux. Recycler, je trie ce qui ne peut pas être réutilisé, et puis je composte.
Et que faites-vous au quotidien pour appliquer cette philosophie zéro déchet? Que conseillez-vous aux débutants?
On peut commencer très simplement par un stop pub sur la boîte aux lettres, acheter une gourde, utiliser des éco-cups, avoir sur soi un sac de course en tissu, des couverts réutilisables, et puis bah, réparer vos objets cassés, donner ce que vous n'utilisez plus, c'est déjà un bon début.
Et pour les plus motivés, que peuvent-ils mettre en place?
Il y a quelques mesures à plus fort impact. Composter les biodéchets, j'en ai parlé. Ça peut être fait à la maison grâce à un lombricomposteur ou si vous avez accès à un compost collectif. Acheter en vrac aussi, faire ses courses en vrac permet d'éviter beaucoup d'emballage. Ça nécessite de mettre en place quelques habitudes comme prendre des sacs à vrac pour les courses et stocker ensuite dans des bocaux ou autres contenants. Et enfin, éviter le neuf. N'achetez vraiment que ce dont vous avez besoin et réparer le reste.
Ok, donc la démarche zéro déchet peut être mise en place dans différentes parties de notre vie. Et par quoi avez-vous commencé?
Moi, j'ai commencé par la salle de bain, c'était le plus facile pour moi. Donc j'ai remplacé les bouteilles de savon liquide et de shampoing par du solide. Plus de coton jetable, mais des disques de coton lavable en machine. Pour les demoiselles, on peut utiliser une coupe menstruelle et des serviettes hygiéniques lavables, par exemple.
Ok, un dernier petit conseil?
Je pense qu'il est important de faire ce dont vous vous sentez capable. Donc commencez par ce qui vous semble le plus facile, faites une liste de choses que vous avez mises en place, une liste de choses à améliorer. Il y a beaucoup de conseils en ligne, n'hésitez pas à vous en inspirer. Et n'oubliez pas, les petits gestes ne suffisent pas, mais ils comptent.
Merci Micheline. Et donc du coup, notre invité va pouvoir rebondir sur cette question-là du zéro déchet. Le zéro déchet, est-ce que c'est la piste prioritaire? Vous disiez tout à l'heure que c'était la première des étapes. Et est-ce que c'est atteignable comme objectif?
Oui, je crois que c'est une question de volonté. C'est un sujet qui paraissait vraiment ésotérique il y a une quinzaine d'années, et maintenant ça devient de plus en plus, de plus en plus partagé. Hein, c'est un peu comme, moi je me souviens quand je traversais Paris à vélo, quand j'étais étudiant, on me disait mais le vélo c'était absurde, il y avait un cycliste dans Paris et c'était un truc pour la campagne. Aujourd'hui, on fait des autoroutes à vélo rue de Rivoli. Voilà. Et ben les déchets, c'est pareil. Il y a 10 ans, ça paraissait un petit peu stratosphérique de faire du compost à domicile dans Paris ou de faire attention à ses bocaux, etc. Et maintenant, ça paraît de plus en plus normal. Ça reste une minorité, donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais c'est possible. Et ça, tout le monde sait que c'est possible. Et ça change tout. Et ensuite, je suis tout à fait d'accord avec votre conseil, hein, c'est il faut essayer, commencer par quoi on est à l'aise, c'est comme une pelote, il faut tirer le fil, et puis petit à petit, on s'aperçoit qu'on peut de plus en plus réduire ses déchets, de plus en plus circuler sans polluer, et de plus en plus avoir finalement un comportement et un quotidien avec un impact environnemental tout à fait réduit.
Ouais, c'était les bons conseils de Micheline pour sauver le monde.
Du coup, quand on regarde les chiffres mondiaux, les déchets produits par les particuliers face à ceux de l'industrie, c'est l'équivalent à peu près de 30% pour les particuliers, 70% pour les industriels. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose un petit peu zéro déchet qui est envisagé pour les industries? On parlait tout à l'heure de peut-être ces fournisseurs qui permettent aussi de collecter tous les déchets résiduels de leur production.
Alors, attention, en fait, c'est les mêmes. C'est ce que vous jetez, vous, chez vous, c'est comme la partie émergée d'un iceberg. Et ce que jettent les professionnels, c'est la partie immergée que vous ne voyez pas, mais qui, eux, dans le pays où ils ont produit ce que vous avez jeté, ils le voient. Donc, quand vous jetez quelque chose, un verre, un produit, n'importe quoi, un stylo, vous jetez toute la matière première qui a été mobilisée pour fabriquer ce que vous jetez, toute l'énergie qui a été utilisée pour ce que vous jetez, toute l'eau pour produire l'aliment que vous n'avez pas consommé, tous les gaz à effet de serre qui ont été rejetés pour fabriquer, pour transporter, pour distribuer ce que vous êtes en train de jeter. Donc, la démarche zéro déchet, elle prend la question par le bout, celui de la partie émergée, mais c'est pour ça que c'est intéressant, mais en fait, elle tire toute la partie qui est immergée.
D'accord.
Donc le zéro déchet, un moyen de sauver notre planète ce soir.
C'est ça. La conclusion. Mettez-vous à votre propre rythme, là où vous pouvez, et parlez-en autour de vous.
Merci à vous.
Et ben, merci à tous.
Merci.
C'est tout pour nous.